Oui, c'est la première séance du cycle marxisme et philosophie. Les deux premiers exposés consacrés au rapport de Marx et Hegel vous seront présentés par notre camarade Louis de Maldan, qui est l'un des secrétaires de la Fédération de la région parisienne du PSU.
Vous savez sans doute que le marxisme à l'état mûr, le marxisme du matérialisme historique, n'est plus une vie au sens classique du terme. Marx parle dans l'idéologie allemande de la fin de la philosophie. Il dit dans ses thèses sur Feuerbach que les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières et qu'il s'agit de le transformer. Et Engels parle de Hegel comme le dernier des philosophes. Et donc le marxisme n'est plus tout à fait une philosophie, mais en même temps, la philosophie a joué un très grand rôle dans la formation du marxisme en tant que tel, et même elle a continué à jouer un rôle dans son développement, c'est-à-dire que le marxisme est un dépassement de la philosophie. Or justement, cette philosophie que le marxisme dépasse, c'est la philosophie hegelienne. C'est celle dans laquelle s'est formé le jeune Marx, et c'est celle qu'il dépasse. Autrement dit, notre sujet recouvre la quasi-totalité du cycle que nous avons à faire. Par conséquent, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas une mince affaire, et c'est très délicat à accomplir en si peu de temps. D'ailleurs, vous verrez que j'aurai des problèmes. C'est une question qui est également plus embrouillée que ça n'en a l'air. Parce qu'il ne s'agit pas seulement des rapports entre Marx et Hegel. Il s'agit aussi tout simplement des rapports entre Marx et Marx. Entre Marx, mûr, élaborant le matérialisme historique, enfin pour simplifier, disons le Marx du capital, n'est-ce pas, et le jeune Marx, parce que bien entendu, n'est-ce pas, comme tout le monde, Marx a eu une jeunesse et il n'est pas né, n'est-ce pas, avec le matérialisme historique dans son cerveau. C'est-à-dire que le jeune Marx n'est pas le Marx de la maturité. Et le jeune Marx, précisément, c'est un philosophe hegelien. Mais c'est plus compliqué que ça. Parce que sa formation, il ne la reçoit pas directement de Hegel. Il la reçoit d'un milieu qu'on appelle, d'ailleurs auquel il a participé, qu'on appelle les hegeliens de gauche. N'est-ce pas ? Et même, c'est encore plus compliqué que ça, parce que si Marx a été hegelien de gauche pendant une période de sa vie, il l'a été toujours avec une certaine réticence. Et d'autre part, sur son parcours de dépassement philosophique de Hegel, il a rencontré un autre critique de la philosophie hegelienne, un autre philosophe qui est indissociable du jeune Marx, c'est Ludwig Feuerbach. Alors comme vous voyez, les rapports ne sont pas simples, on est obligé de parler des rapports entre le jeune Marx et le Marx de la maturité, et c'est plus compliqué que les simples rapports entre Marx et Hegel. C'est une question délicate, mais c'est aussi une question essentielle, qui a un enjeu considérable. Car le sujet recouvre le fameux problème de la dialectique marxiste et de ses rapports avec la dialectique hegelienne. Dans la postface de la deuxième édition allemande du livre 1 du Capital, Marx dit, et ça a fait couler beaucoup d'encre, « La dialectique chez Hegel est la tête en bas. Pour découvrir dans la gangue mystique le noyau rationnel, il faut la renverser. » Dans la traduction des éditions sociales, traduction Roy, qui a été revue par Marx, ça donne une autre traduction. Chez lui, elle marche sur la tête, il suffit de la remettre sur les pieds pour lui trouver la physionomie tout à fait raisonnable. Alors, est-ce qu'il faut conclure de cela qu'il suffit d'extirper la méthode dialectique de Hegel et de l'extraire du système philosophique idéaliste hegelien? Est-ce que la dialectique marxiste, c'est une autre hypothèse, est simplement le contraire symétrique, l'inversion, n'est-ce pas, matérialiste, de celle de Hegel? Est-ce que la méthode dialectique sort intacte de ce renversement ou de cet épluchage? Alors c'est une question très délicate parce qu'il est tout à fait invraisemblable d'abord que la méthode puisse sortir intacte d'une telle opération. Et on risque d'aboutir un certain nombre d'impasses que le mouvement ouvrier d'ailleurs a connues. Par exemple, est-ce qu'on ne risque pas d'aboutir à une version naturaliste de la philosophie hegelienne? Est-ce qu'on ne peut pas aboutir à une nouvelle métaphysique naturaliste au lieu d'être idéaliste, ce qui était un peu le penchant du matérialisme dialectique vu par Joseph Staline? C'est d'autant plus... c'est un premier écueil. Alors, c'est d'autant plus invraisemblable, cette histoire comme quoi la méthode pourrait sortir intacte de l'opération du renversement, que Marx parle de renverser non pas Hegel, mais la méthode dialectique hegelienne. C'est-à-dire que ce qui est bouleversé, ce n'est pas simplement le système, c'est également la méthode. Et Engels, qui a donné un peu trop dans les raisonnements sur cette formule métaphorique du renversement ou du noyau qu'on extrait de la gangue mystique, disait lui aussi pourtant que la méthode hegelienne était inutilisable sous sa forme hegelienne. Par conséquent, il est exclu, semble-t-il, que la méthode puisse sortir indemne de l'opération du renversement. Mais alors certains en tirent des conclusions radicales. Ils tirent comme conclusion que la dialectique marxiste ne doit avoir dans ces cas-là aucun rapport avec celle de Hegel. Elle n'est pas son contraire ou son inversion matérialiste, elle n'a rien à voir avec la méthode hegelienne. Si Marx utilise encore des concepts hegeliens, ces concepts ne sont pas adéquats avec ce que Marx veut dire, n'est-ce pas ? C'est une simple façon de parler, une simple coquetterie, tout simplement parce que Marx n'a pas encore trouvé de nouveaux concepts meilleurs, adaptés, adéquats. Et alors, évidemment, la conclusion logique de ce raisonnement, c'est de dire qu'il faut relire Marx et il faut foutre en l'air, il faut modifier ces concepts adéquats et élaborer des concepts nouveaux qui seraient, eux, adéquats à leur objet. C'est-à-dire, autrement dit, il faut liquider le résidu hegelien qui reste dans le Marx de la maturité et élaborer une nouvelle philosophie marxiste, un système, n'est-ce pas, dans lequel on pourrait résumer la logique de Marx dans ce qu'elle a de spécifique. C'est ce que veulent faire aujourd'hui en France les althusseriens. Mais est-ce que c'est légitime? Alors je ne parlerai pas, on en parlera plus tard, des mutilations considérables qu'il faut alors entreprendre des œuvres de Marx et d'Engels. Mais tout simplement, ce sera la fin de mon introduction pour vous faire sentir que ce n'est pas seulement un problème d'érudition. Je voudrais vous signaler que ce n'est pas un petit jeu philosophique innocent. Par exemple, il y a des catégories hegeliennes qui sont irrémédiablement liquidées dans une telle opération. C'est par exemple l'aliénation, la négation de la négation et le concept de dépassement. Dans l'opération, alors c'est tout à fait différent, mais dans la conception stalinienne de la dialectique, on aboutissait d'ailleurs exactement au même résultat, c'était les mêmes catégories qui tombaient. Pourquoi ? Tout simplement, par exemple, le concept d'aliénation est strictement inutilisable une fois qu'on a naturalisé la dialectique hegelienne. Elle ne peut pas fonctionner dans la dialectique de la nature. Alors on voit tout de suite la portée de l'élimination de ces concepts, par exemple en ce qui concerne la société socialiste à construire. Suffit-il d'abolir la propriété privée des moyens de production pour s'installer dans le socialisme? Peut-il exister un socialisme dans un pays qui serait dominé par une bureaucratie d'État? Ou encore, autre question, la construction du socialisme n'est-elle pas en même temps destruction, non pas seulement de l'État bourgeois, mais de tout État? Et peut-on véritablement, raisonnablement, penser tout cela en éliminant systématiquement l'aliénation, la négation de la négation et le dépassement? Autre aspect, la découverte que Althusser considère comme fondamentale dans l'œuvre du Marx de la maturité, mais qu'il n'aurait pas su bien exprimer, c'est ce qu'il appelle la causalité structurale. Or, c'est donner fâcheusement le primat, la priorité, au point de vue de la cohérence du tout que constitue une société, plutôt qu'au point de vue de la contradiction du caractère transitoire, éphémère et historique de cette société. Et là, on ne peut pas s'empêcher d'opposer la plus récente autocritique d'Althusser, qui semble être spécialisée aujourd'hui dans ce genre d'exercice, où il dit carrément « j'ai négligé et oublié la lutte de classe », avec ce que Marx disait de la dialectique hegelienne, sous son aspect rationnel, elle est un scandale et une abomination pour les classes dirigeantes et leurs idéologues doctrinaires, parce que de la conception positive des choses existantes, elle inclut du même coup l'intelligence de leur négation fatale, de leur destruction nécessaire, parce que saisissant le mouvement même, dont toute forme faite n'est qu'une configuration transitoire, rien ne saurait lui imposer, parce qu'elle est essentiellement critique et révolutionnaire. Il faut d'ailleurs se rappeler que le marxisme de la Deuxième Internationale, dont on a vu les conséquences politiques, ignorait très largement la dialectique hegelienne pour verser dans un économisme plat. Bernstein, le premier des révisionnistes officiels, voulait dépouiller le marxisme de la dialectique pour en finir avec ce qu'il appelait le socialisme théorique et pour promouvoir ce qu'il appelait la social-démocratie pratique. Il préconisait un retour à Kant, c'est-à-dire un retour à l'éthique, n'est-ce pas, à la morale, au service d'une politique réformiste qui voyait l'édification du socialisme dans le prolongement et l'approfondissement du développement démocratique. Autre aspect de la question qui ne manque pas d'importance, il ne faut pas non plus considérer comme ça que la version continuiste, comme quoi il n'y aurait pas de différence entre, ou pas de différence essentielle entre la méthode dialectique de Marx et la méthode dialectique hegelienne, n'aboutit pas là aussi à de très sérieuses questions. Je prendrai simplement un exemple. À la fin de sa vie, Marx a écrit un certain nombre de lettres concernant la Russie, qui à l'époque n'était pas encore entrée dans l'ère capitaliste. Et dans ses lettres à Vera Zasulitch et à Mikhaïlovski, on voit qu'il se défend d'une accusation que lui faisaient les populistes russes. Les populistes russes l'accusaient d'avoir une philosophie de l'histoire qui introduisait l'idée que toute société devait obligatoirement passer par le stade capitaliste de développement et qu'il n'était pas possible de songer à construire autre chose à partir d'une société pré-capitaliste qu'une société capitaliste. Et il répond: vous me faites dire que j'ai une philosophie de l'histoire à la manière de Hegel, c'est à la fois me faire trop d'honneur et trop de misère. C'est-à-dire qu'il récusait cette théorie et qu'il pensait qu'il était possible de passer par-dessus le stade capitaliste de développement. En 1917, il y aura un grand nombre de socialistes, en particulier les mencheviks, qui tiendront à peu près le même raisonnement, sauf que la société russe n'avait plus rien à voir. Les masses prolétariennes mettent à l'ordre du jour la révolution, mais tout ceci n'est pas sérieux. La philosophie de l'histoire nous indique que la révolution ne peut pas être à l'ordre du jour avant qu'il y ait un développement complet du stade capitaliste, ce qui n'est pas le cas en Russie. Autrement dit, les révolutionnaires et les masses ont tort, et l'heure n'est pas à la révolution. Alors, comme vous voyez, la version continuiste aboutit également à de sérieux problèmes et à de sérieuses impasses. Et le côté délicat du problème tient au fait qu'il faut tenir les deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire ne pas liquider l'héritage hegelien, mais sans oublier que le dépassement est plus, enfin, supprime la philosophie hegelienne en même temps qu'elle la conserve, c'est-à-dire sans mettre l'accent sur ce que Marx conserve plus que sur ce que Marx supprime. Alors, ces deux bouts de la chaîne, ils sont symbolisés par ce que disait Lénine. Au début de sa vie, Lénine, qui a eu affaire aussi aux mêmes populistes que Marx, répondait dans « Ce que sont les amis du peuple » aux populistes qui faisaient exactement la même critique, que l'insistance sur la dialectique, je cite, « le choix des exemples prouvant l'exactitude de la triade hegelienne ne sont que des vestiges de l'hegelianisme, d'où est sorti le socialisme scientifique, des vestiges de sa façon de s'exprimer. » C'est-à-dire qu'on a l'impression que Lénine rejette l'héritage hegelien dans la simple coquetterie verbale, la façon de s'exprimer auquel il ne faut pas attacher énormément d'importance. Mais il ne s'agit pas de s'y tromper. À la fin de sa vie, enfin pas tout à fait à la fin, pendant la guerre de 14, Marx relit la logique de Hegel, il en tire des cahiers philosophiques et il en conclut, il préconise d'approfondir le marxisme en lisant Hegel en matérialiste. C'est-à-dire que, comme vous voyez, il tenait les deux bouts de la chaîne, c'est ce que nous allons essayer de faire. Alors, quel plan va-t-on suivre ? Et on n'aura certainement pas le temps, enfin ça m'étonnerait beaucoup, de finir aujourd'hui, comme je ne veux pas parler plus d'une heure un quart, parce que sinon vous serez crevés moi aussi, et qu'il n'y aurait plus aucune place à la discussion. Mon camarade le Duc a l'obligeance de me permettre de continuer, puisque lui il a deux séances pour faire le matérialisme, de continuer donc la semaine d'après, ça fait 15 jours ça. Alors je vais quand même donner le plan. Oh, il n'a rien d'original, hein, parce qu'il faut aussi tenir compte qu'il doit y avoir un degré inégal de connaissance en matière de marxisme et de philosophie assez considérable. Hein. Tranquillisez-vous, l'introduction, c'est ce qu'il y avait probablement de plus compliqué, c'est toujours ça d'ailleurs. Il n'a rien d'original. La première partie, je l'intitulerai « De la fin de la philosophie classique allemande au manuscrit de 1844 ». Et la deuxième partie, continuité, coupure ou renversement. Alors dans la première partie, on va d'abord examiner les rapports entre Marx, le jeune Marx, n'est-ce pas, et la fin de la philosophie classique allemande. C'est-à-dire, d'abord, qu'est-ce que c'était la philosophie classique allemande ? Comment qualifier, caractériser la philosophie hegelienne. Ensuite, comment sont apparus les hegeliens de gauche et quelle était la position des jeunes Marx, du jeune Marx à l'égard des hegeliens de gauche. Donc ça, c'est le grand A, si vous voulez, de la première partie. Dans un deuxième temps, on étudiera comment le jeune Marx, encore philosophe, dépasse déjà la philosophie de Hegel, à la fois à travers une expérience politico-journalistique et la rencontre avec la critique du système hegelien par le philosophe allemand Ludwig Feuerbach. Et puis il y aura un grand C où on examinera le dernier écrit du jeune Marx, les manuscrits de 1844. Alors dans la deuxième partie, je repréciserai les données politiques du problème continuité, coupure ou renversement. Ensuite, j'étudierai la théorie de la coupure, c'est-à-dire de la différence radicale, absolue, entre Marx et Hegel. Et j'étudierai chez Althusser. Ceci me permettra de faire l'économie de la critique personnelle de la version continuiste, parce qu'on ne peut pas être plus systématique qu'Althusser. Ensuite, on étudiera les conséquences de cette théorie de la coupure. Et puis, on fera la critique. Ce sera le dernier aspect de cette théorie de la coupure, tout en retenant ce qu'elle peut avoir de positif. Voilà. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, on aura essentiellement le temps de faire la première partie.
Tu ne parles pas du tout de l'évolution d'Engels.
Non, oui, c'est un tort. C'est une problématique intéressante parce que, moi, à mon avis, il y a une différence assez considérable entre la philosophie d'Engels et la philosophie de Marx. Et cette différence, on la trouve aussi dans la formation des deux hommes. On ne peut pas tout traiter non plus. On va donc commencer par la première partie, c'est-à-dire de la fin de la philosophie classique allemande au manuscrit de 44, et disons le grand A, Marx est la fin de la philosophie, le jeune Marx est la fin de la philosophie classique allemande. Alors d'abord, il faut situer le cadre historique de la fin de la philosophie classique allemande, et pour caractériser cette situation historique, on peut reprendre le mot de Marx qui parle de misère allemande. En 1815, en Allemagne, c'est la Restauration, pas seulement en Allemagne d'ailleurs, c'est le triomphe de la Sainte Alliance, et la bourgeoisie allemande reste pour l'essentiel passive. Elle ne comprend pas ou n'exécute pas sa mission historique. Ceci mis à part, enfin, on peut faire une exception avec la branche rhénane de la bourgeoisie allemande, qui, elle, avait une vision politique libérale et une certaine activité. Il faut signaler que Marx, précisément, est rhénan. Ce n'est pas un détail. La bourgeoisie allemande se concentre, disons, sur ses intérêts économiques, sans s'en prendre donc de front à la noblesse, qui constitue encore l'armature de la bureaucratie d'État et de l'armée, et cet État reste pour l'essentiel un État très entaché d'absolutisme et par la féodalité. Quant au mouvement ouvrier, il est encore très faible. Il ne se manifeste pas comme mouvement autonome, il le fera que très tardivement, disons en 1844 avec la révolte des tisserands de Silésie. Alors l'opposition, elle réside dans les universités, chez les intellectuels. Les intellectuels allemands, les idéologues allemands, ont produit le reflet théoriquement le plus avancé, le reflet philosophique théoriquement le plus avancé de la Révolution française. Mais en même temps, il faut tenir compte du caractère profondément idéologique et spéculatif de cette avancée théorique, c'est-à-dire que la forme idéologique de cette avancée théorique n'est pas sans importance. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de manuels d'enseignement, aussi abscons qu'abstrus, qui sont prononcés par des professeurs nommés par l'État, et pas n'importe quel État. Autrement dit, si, théoriquement, la philosophie allemande représente le reflet le plus avancé de la Révolution française, politiquement, cette idéologie allemande n'a rien de révolutionnaire, elle est même carrément conservatrice, très souvent, c'est en particulier le cas de la philosophie hegelienne. Alors, qu'est-ce que Hegel, on va se pencher maintenant plus précisément sur la question de Hegel, qu'est-ce qu'Hegel introduit dans l'histoire de la philosophie ? Alors, au début, ça va vous paraître difficile pour ceux qui ne sont pas initiés, mais après ça va s'éclaircir, alors vous en faites pas. Hegel réintroduit le mouvement et l'histoire dans la philosophie, et d'autre part, il montre que la connaissance de l'homme peut s'élever au savoir absolu. Son premier grand ouvrage, La phénoménologie de l'esprit, pourrait s'intituler De la conscience à la connaissance. Il analyse le mouvement de la conscience qui se sépare peu à peu du monde extérieur et de l'autre, de ce qui n'est pas moi. Hegel part de la conscience élémentaire, de l'ici et du maintenant, et par un mouvement dialectique, cette conscience se dépasse elle-même pour en arriver à la conscience de soi. L'homme atteint le niveau de la connaissance par l'entendement, qui lui permet d'ordonner son action et d'analyser le monde, puis il s'élève au niveau de la raison, du concept, qui lui permet de saisir le réel, et enfin il assimile les formes de la culture, religion, esthétique, etc., pour parvenir au savoir absolu. Alors là, vous n'y comprenez rien, mais ça va s'éclaircir. Ça s'éclaircit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'essence humaine cesse d'être un donné. Elle a une histoire, aussi bien sur le plan individuel que sur le plan de l'humanité tout entière. Hegel saisit la production de l'homme par lui-même comme un processus. Autre aspect, autre conclusion qu'on peut tirer de ce premier aspect, la philosophie peut rendre compte de tous les aspects de l'univers, aspects sociaux, aspects historiques, aspects naturels. Et elle ne part plus d'un devoir-être, mais du réel dans son développement. En réintroduisant le mouvement, Hegel dépasse la logique classique, celle qu'il attribue au niveau de l'entendement. Pour lui, le monde de l'entendement, le monde de la réflexion, c'est celui de la séparation, de l'atomisation. Le réel se présente sous forme d'objets inanimés, d'objets isolés et chosifiés. La raison, qui est un niveau supérieur à celui de l'entendement, permet de s'approprier le mouvement, la vie, en dépassant justement le point de vue de l'entendement, parce que le point de vue de l'entendement repose sur le principe inverse de celui de la raison, l'interdiction de la contradiction considérée comme une absurdité. Au contraire, la dialectique, la raison dialectique, part du principe que la contradiction est l'essence même des choses. Autrement dit, la chose est inséparable de son contraire. Et derrière les choses essentielles, il faut saisir les rapports essentiels entre les choses. La généralité abstraite représente l'essence de la réalité comme un monde de choses immuables. Si la contradiction est l'essence même des choses, cela veut dire par contre que toute chose, en demeurant elle-même, devient une autre. Autrement dit que, par-dessous les choses essentielles, il faut saisir leur processus de développement, de passage, l'une dans l'autre. On passe à la vie même, on peut s'approprier par la pensée, le concret lui-même, s'élever de l'abstrait au concret, mais au concret pensé. La contradiction ne reste pas stable. Elle se développe grâce au moteur du négatif qui pousse à la résolution de la contradiction, ce qui se résume dans le mot de Aufheben, qui signifie dépassement, c'est-à-dire à la fois, enfin dépasser plus exactement, à la fois supprimer et conserver. Cette philosophie correspondait d'ailleurs à un nouveau développement des sciences de la nature, qui imposait de sortir de la logique traditionnelle et du mécanisme. En effet, quelles étaient les sciences qui apparaissaient à l'époque de Hegel ? Ce sont des sciences qui introduisent le mouvement. C'est la géologie, c'est l'embryologie, c'est la physiologie végétale et animale, la chimie organique, et même les premiers balbutiements de la théorie de l'évolution. Mais ce couronnement de la philosophie est aussi le comble de la philosophie idéaliste, c'est-à-dire la plus idéaliste qu'il soit. En effet, pour Hegel, le mouvement du monde n'est pas autre chose que le mouvement de l'idée avec un grand I majuscule. C'est ce qui ressort de son grand ouvrage, La Logique. L'idée est à l'origine du mouvement. Pour se réaliser, l'idée doit poser son contraire, c'est-à-dire le réel, la nature. Et elle le pose comme être autre, c'est-à-dire qu'elle reste elle-même, mais sous une forme qui lui est étrangère. Elle pose cet être autre comme quelque chose qu'elle doit dépasser, pour revenir ensuite à elle-même. Cette incarnation de l'idée dans le monde de la nature et de l'histoire, c'est ce que Hegel appelle l'aliénation de l'idée absolue. Et cette aliénation, après s'être développée, doit être reprise. Alors nous reviendrons plus tard, plus en détail, tout au long de l'exposé d'ailleurs, sur le concept hegelien d'aliénation. Enfin, il fallait d'abord le caractériser. Alors, comme vous voyez, il y a une contradiction entre la méthode révolutionnaire de Hegel et son système idéaliste et spéculatif. Et cette contradiction éclate en particulier sur la question de la religion et de l'État. Hegel dit dans les principes de la philosophie du droit, tout ce qui est réel est rationnel, et tout ce qui est rationnel est réel. Alors d'un côté, ceci est absolument révolutionnaire, parce que ça veut dire que le réel n'est réel que s'il est rationnel. S'il devient irrationnel, eh bien il périt. Et tout ce qui existe mérite de périr s'il n'est plus nécessaire. D'un autre côté, tout ce qui est rationnel dans la tête des hommes est destiné à devenir réel, même si c'est en contradiction, au début, avec la réalité existante. Mais en même temps, cette philosophie qui paraît révolutionnaire est profondément conservatrice. Parce que ça conduit aussi à l'apologie de ce qui est en tant qu'étape nécessaire d'un processus. Et c'est ici d'ailleurs qu'intervient le système hegelien. Le système hegelien doit déboucher sur la vérité absolue. Et c'est quoi la vérité absolue? C'est la philosophie de Hegel, évidemment. C'est-à-dire que tout ce qui est réel est rationnel et tout ce qui est rationnel est réel, ça conduit évidemment à l'apologie de ce qui existe, de ce qui est, du temps de Hegel. Puisque la philosophie de Hegel constitue le dernier mot, la vérité absolue. Par conséquent, le processus est achevé. Alors, vous allez voir tout de suite ce que ça peut donner, en particulier pour l'État. Pour Hegel, l'État, c'est la forme que revêt l'idée absolue dans le domaine du gouvernement des hommes. Alors, c'est déjà une apologie très importante de l'État, en tant que tel. Mais il y a mieux, l'institution idéale de cet État, pour Hegel, c'est la monarchie constitutionnelle, où l'idée absolue est incarnée par le monarque. Autrement dit, l'État, l'institution idéale de l'État, c'est Frédéric Guillaume III, c'est-à-dire l'État prussien, qui n'est pas spécifiquement avancé, pour employer une terminologie moderne. Alors, vous voyez déjà la contradiction qui existe entre la méthode qui fait de ce qui est stable quelque chose de relatif et du transitoire quelque chose d'absolu, n'est-ce pas ? Donc contradiction entre cette méthode et le système du savoir absolu de la philosophie hegelienne qui conduit au contraire à l'apologie conservatrice de ce qui est et qui ne pouvait pas, cette contradiction ne pouvait pas manquer d'entraîner des effets par la suite. Et c'est là-dessus que nous arrivons au problème de l'apparition des hegeliens de gauche. La scission entre les hegeliens s'est faite essentiellement sur les problèmes religieux et secondairement sur les problèmes politiques. En effet, si la philosophie est à la recherche de la vérité, il est normal qu'elle en revendique le monopole. Et seule la démarche de la raison conduit à la vérité. En principe, la religion échappe à la raison. C'est un premier aspect qui ressort de la philosophie hegelienne. Mais en même temps, chez Hegel, la religion, c'est le domaine où l'esprit du monde s'incarne le plus concrètement et le plus complètement. C'est le domaine le plus éminent de la culture. Et c'est là-dessus que va éclater le courant hegelien. En pleine période de réaction religieuse, David Frédéric Strauss publie une vie de Jésus qui tend à remettre la religion à sa place. L'humanité est la réunion de deux natures, Dieu incarné, esprit fini qui s'est donné une forme finie, et esprit infini qui a conscience de son infinité. Au fur et à mesure de l'histoire, l'esprit s'affranchit de sa forme finie. Contre cette théorie, il y a déjà une très vigoureuse réaction de la part de la religion établie, de l'orthodoxie religieuse, qui secoue déjà l'homogénéité des successeurs de Hegel qui dominaient les universités allemandes. Deuxième étape, c'est plus important, en 1837, le roi de Prusse relève de ses fonctions Monseigneur, je ne sais pas comment on prononce, Droste Fischering, qui était archevêque catholique ultramontain de Cologne et qui critiquait l'État prussien et l'université qu'il considérait, c'était d'ailleurs vrai, comme trop marqué par le protestantisme et par le rationalisme. Alors, c'est là où les Hegeliens se clivent. Certains, comme Heinrich Kleo, défendent l'État prussien, mais surtout, en même temps, ils défendent la réaction religieuse, n'est-ce pas ? Et d'un autre côté, Arnold Ruge, ce sera l'un des chefs de file des Hegeliens de gauche, reproche à Heinrich Kleo son dogmatisme religieux. Il considère, lui, qu'il faut effectivement défendre l'État prussien, mais non pas dans ce qu'il a de religieux, mais dans ce qu'il a de rationnel, en ce qu'il est l'État rationnel moderne. Autrement dit, vous en avez qui, comme Léo et les orthodoxes, traiteront les Hegeliens de gauche de révolutionnaires athées, et contre lui se définissent des Hegeliens de gauche qui mettent l'accent sur le rationalisme chez Hegel et non pas sur le système. Les uns s'accrochent au système, les autres à la méthode. Vous voyez à peu près quel est le principe de l'éclatement du courant hegelien. Alors c'est dans cette ambiance, c'est là où nous trouvons le jeune Marx, que Marx fait ses études, ou du moins ses études universitaires. Parce que ses premières études, il les a fait en Rhénanie, à Trèves, dans des milieux qui n'étaient pas hegeliens, qui étaient plutôt de tradition rationaliste française, assez voltairien. Ce qui est d'ailleurs assez important pour comprendre la différence qu'il y aura toujours entre Marx et les Hegeliens de gauche. Mais ses études universitaires, il les fait à partir de 1836 à Berlin, et il fréquente les cours de philosophie hegelienne à cette université. Les cours de Gans, qui était un hegelien libéral assez soucieux du concret, les cours de Gabler, en cours de logique, qui Gabler était au contraire un orthodoxe, et surtout le cours de Bruno Bauer, dont il deviendra compagnon, qui sera, disons, le deuxième chef de file des Hegeliens de gauche avec Arnold Ruge. Alors, il est certain que Marx s'est converti à l'hegelianisme au cours de ses études universitaires. Une lettre à son père en 1837 en témoigne, sans qu'il y ait de contestation possible, à moins de considérer que tout ce qu'écrit Marx est absurde et n'a pas conscience de soi, et qu'il faut changer tous les mots pour en mettre d'autres, ce que Althusser fait souvent avec une gaieté sans égale. Donc il fait une profession de foi, de conversion à la philosophie hegelienne, mais il faut noter qu'il ne l'a pas fait sans réticence. Et ensuite, Marx, au cours de ses études et après ses études, fréquente assidûment Bruno Bauer et son entourage, et il participera au club des docteurs, qui est l'une des branches des Hegeliens de gauche, qui défendent la philosophie contre la religion. Alors que Arnold Ruge, qui représente une autre aile des hegeliens de gauche, s'occupait plutôt du combat politique dans un journal qui s'appelait Les Annales de Halle. Mais il faut noter que dès cette époque, Marx allait sans doute beaucoup plus loin sur le terrain même de la critique de la religion que les hegeliens de gauche. Il a même certainement joué un rôle moteur à l'intérieur de ce club pour les entraîner sur la voie de l'athéisme. Deuxième étape dans ce mouvement des hegeliens de gauche, on a vu déjà le livre de Strauss et l'affaire de Monseigneur, je ne sais plus quoi, de Cologne. Deuxième étape, c'est l'arrivée au trône de Frédéric Guillaume IV, qui constitue pour les hegeliens de gauche une énorme déception. On pensait qu'il allait donner enfin sa véritable forme à l'état rationnel moderne, et pas du tout. Il mène au contraire une politique ouvertement réactionnaire sur tous les plans, et en particulier sur le plan religieux, et même il déclare la guerre, si j'ose dire, aux hegeliens de gauche, ce qui n'ira pas sans conséquence, puisque par exemple Bruno Bauer en perdra sa chair et il n'enseignera plus, ainsi plus tard que Feuerbach. Et dès cette époque, on peut voir une différence assez sensible entre Marx et les hegeliens de gauche. Bauer se réjouissait de cette évolution politique. Il écrit à cette époque, à Marx, que c'est une bonne chose parce que ça permettra à la philosophie non seulement de s'émanciper de la religion, mais aussi de l'État. Et d'autre part, il ajoute que pour lui, la révolution ne se fera pas dans les faits, mais d'abord et essentiellement dans les consciences. Il semble que Marx n'ait jamais partagé ce point de vue. Et on s'en aperçoit dès 1841, dans sa première œuvre écrite, sa thèse de doctorat, qui s'intitule « Différence de la philosophie de la nature chez Démocrite et chez Épicure », où on voit déjà Marx s'émanciper par rapport aux hegeliens de gauche. D'abord, il reproche dans sa thèse de doctorat, il reproche à Hegel d'avoir négligé l'épicurisme, et ceci constitue un signe, le signe que pour Marx, la philosophie doit être tournée vers le réel, d'abord, et d'autre part, que religion et philosophie sont incompatibles. La philosophie n'est pas le dépassement de la religion, qui conserve en même temps le moment religieux, ce qu'on pouvait conclure de la philosophie de Hegel. Religion et philosophie sont incompatibles. D'autre part, Marx, dans sa thèse, ne partage pas la thèse des hegeliens de gauche. Les hegeliens de gauche pensaient que il y avait deux Hegel dans Hegel. Un Hegel pour la galerie et un Hegel pour les connaisseurs. Un Hegel exotérique, un Hegel ésotérique. Autrement dit, Hegel avait fait des concessions à la religion, à l'État prussien, etc. Mais c'était des concessions tactiques pour pouvoir continuer à développer son système. Mais dans son fond, la philosophie hegelienne n'avait rien à voir avec ces concessions tactiques. Marx, dans sa thèse de doctorat, insinue que cette conception est fausse. Et en cela, il se montre, à la différence des hegeliens de gauche, radical. C'est-à-dire que pour lui, la contradiction chez Hegel est réelle et elle signifie qu'il ne suffit pas d'interpréter Hegel de telle ou telle manière, qu'il faut rapporter la contradiction au système même de Hegel, c'est-à-dire qu'il faut dépasser le système hegelien et le critiquer.
La première partie de cette cassette est terminée. Pour en écouter la suite, il vous suffit de la retourner.